last year Sidney Lumet was here, and he had a very good time. So I said yes this year, and I'm happy to be here.
The only relationship to a Hollywood studio is whether the picture makes money. If it makes money, there's no problem. It could be about the beautiful life of Fidel Castro. They would do it if they thought it would make money.
To miał rację. Ten, co leci, czekał w górach. Czy ten, co się ukorzył i służy?
Journal du Festival, épisode 2. Retrouvez tout au long du Arras Film Festival des interviews, des reportages, des infos sur le festival. Sur PFM 99.9, en seconde partie d'Info 30 à 7h45, midi 45 et 18h15. Au menu de ce deuxième épisode, poulet frites. Forcément, Boris a rencontré l'équipe de ce film belge à l'humour décalé.
Reconnaissez ce générique, c'est que vous avez déjà vu l'émission mythique Striptease diffusée pendant de nombreuses années sur la RTBF et France 3. Après leur premier long métrage Ni juge ni soumise sorti en 2017, les réalisateurs Jean Libon et Yves Inan reviennent pour nous proposer Poulet frites, leur second long métrage présenté dans la section découvertes européennes du Arras Film Festival. Je vous propose un extrait de l'entretien avec les truculents réalisateurs pour parler de leur travail sur cette enquête meurtrière. Vous retrouverez l'intégralité de cette interview sur le www.radiopfm.com.
On va parler non pas couscous merguez mais poulet frites, ouais. Avec votre dernier film. Évidemment, ceux qui sont, j'imagine qu'il y a plein de gens qui connaissent l'émission Striptease qui existait déjà avant. Là, vous êtes revenu au cinéma, donc juste avant, avec Ni juge ni soumise. Et en même temps, là, vous revenez avec Poulet frites, un film qui retourne dans le passé, où on est en immersion totale, du début jusqu'à la fin, dans un commissariat de police. Alors, la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est comment on fait pour avoir justement des autorisations pour être au cœur d'une affaire de meurtre.
Alors, ça c'est ma partie. Donc, Jean et Marco, donc Jean Libon, c'est le producteur de Striptease. Là, on avait envie, moi je suis réalisateur, avec les nombreux Gugus et Zozo de l'équipe de Striptease. Et moi, j'avais envie de faire avec Jean un polar. Ce que j'adore avec ce jeune monsieur ici à ma droite, c'est qu'il m'a toujours dit qu'il n'y avait rien d'impossible. Et donc il y a ce qu'on appelle un secret de l'instruction. Donc c'est secret, par essence. C'est secret. C'est-à-dire que quand, et ça Jean a ses raisons, c'est que quand on nous interdit quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose derrière, donc il faut y aller. Donc on a discuté avec la justice pendant 2 ans, et avec toujours le truc qui revenait en face, c'était oui, mais il y a le secret de l'instruction. À un moment donné, je suis un peu patient et surtout bien soutenu en termes de production. Et donc Jean m'a dit, mais tu prends tout ton temps, mais tu vas y arriver. Et donc on a attendu, on a rediscuté avec eux tous les mois. Et à un moment donné, l'avocat général a dit, le secret de l'instruction, d'accord, on va s'en passer. Et faites votre film et vous pouvez faire votre film. Voilà. Et donc ça, c'est grâce au temps que laisse Striptease, le temps qu'on laisse au réalisateur pour travailler. Et donc on a eu ces autorisations-là qui ont pris du temps. Et puis on a fait un casting. Moi, j'étais voir tous les flics et tous les juges, et Jean a regardé la juge et le flic que je lui proposais. On est tombé d'accord, on s'est mis pendant un an à attendre le crime parfait, et le crime parfait est arrivé. Voilà.
On retrouve Anne Gruvet, mais cette fois-ci dans le passé, toujours avec son humour un peu décapant et son franc-parler en même temps, mais son humour partageur, j'ai envie de dire, et non pas critique. Déjà dans Ni juge ni soumise, elle était quand même au centre et c'était quand même absolument fascinant cette dame. Donc du coup, j'imagine que maintenant, ça fait 3 films que je pense que vous faites ensemble. C'est le deuxième.
C'est le premier des 3 celui-ci. C'est le premier des 3 qui sort 20 ans plus tard.
Ouais. Et donc du coup, il a été tourné en
fin 2002, début 2003.
Je trouve ça fascinant parce que je regardais aussi les émissions Striptease. Notamment, je me souviens d'une émission autour de Chirac et sa femme. Si il m'avait marqué.
Le chauffeur de Chirac. Alors, je vais vous raconter une histoire. Donc, on rediffuse ça un an plus tard. On reçoit un ukase de la femme du chauffeur en disant je veux pas que ça repasse, je veux pas que ça repasse. Et en même temps, le chauffeur, je me souviens, Marco Gamèche, donc mon alter ego, au bureau avec deux téléphones. Un, la femme du chauffeur disait je veux pas que ça passe. Et le chauffeur de l'autre côté, au téléphone, disait je veux que ça passe. C'était assez, une vision assez formidable. Donc les deux protagonistes, un an plus tard, un voulait que ça repasse et l'autre pas du tout. Donc il faut gérer comme ça, il faut gérer. Assez comique, chose.
Une chose qui est fascinante aussi, et surtout là sur grand écran en plus, en poulet frites, un long format, déjà dans Ni juge ni soumise, c'était aussi mis en évidence. Moi, un truc qui me fascine dans votre boulot, c'est comment vous arrivez à trouver cette distance entre la caméra, vous derrière, et les gens qui sont dans des bureaux, dans un espace confiné. Comment ils arrivent à oublier, surtout ceux qui sont...
Parce qu'ils font leur travail. Parce qu'ils font leur travail. Et c'est leur boulot. Et donc on est là, on fait partie des meubles. Et leur boulot, ce qu'ils font est plus important. Quand la juge envoie quelqu'un en prison, elle fait son boulot, elle réfléchit vraiment, est-ce que je l'envoie en prison ou pas. Et le type qui se défend, il dit, est-ce que je fais bien d'accepter. Est-ce que je me défends comment pour ne pas aller en prison, quoi. Alors, en fait, et notre présence là-bas est anecdotique. Hein. Eux, ce qu'ils vivent est plus important. Le type qui est devant la juge dit, moi, j'ai pas envie. Il se dit dans la tête, moi, je vais raconter n'importe quoi pour pas aller en prison. Il va pas se dire, je raconte n'importe quoi pour la télé, quoi. Et donc, ça, c'est simple. Alors, c'est vrai qu'au départ, les situations physiques sont repérées. Les axes de caméra sont repérés, et puis voilà, et puis c'est parti. Et c'est, l'histoire emporte la caméra, en fait, emporte notre présence. Notre présence est anecdotique, en fait. Et en plus, quelque part, ils ont intérêt à nous accepter, parce qu'ils seront bien traités, quoi. Ils ne vont pas recevoir des coups de botte sur la gueule, quoi. On est quand même les témoins de quelque chose, de leur existence. Donc ils ont quand même tout intérêt à ce qu'on soit là, quand même.
Moi, je ne crois pas que... En fait, c'est à mon avis tout le contraire. Je pense que la caméra, elle n'est pas distante, elle est très, très proche. Quand je dis qu'elle n'est pas distante, c'est-à-dire qu'on connaît les gens, on a un rapport aux gens qui est établi depuis très, très longtemps. Donc c'est vrai qu'il y a on a l'impression qu'on n'est pas là. Et moi, en tant que réalisateur, je suis souvent à préparer la suite, parce que moi, je suis plus un régisseur à préparer la suite des tournages. Mais cette caméra, elle n'est pas ni trop proche, ni trop lointaine. Elle n'est pas étrangère aux personnes qui la connaissent. Et donc, c'est parce que un bon caméraman de striptease, un bon preneur de son pour striptease, c'est quelqu'un qui s'entend avec les gens. Et donc, voilà, on n'est pas des étrangers, mais on n'intervient pas non plus. Donc, c'est une bonne distance à trouver.
Une chose qui m'a marqué également, c'est que bah, nous-mêmes, en tant que spectateurs, on est témoins de ce qui se passe. Si on prend le cas de ce monsieur qui est condamné, j'ai oublié son prénom, Alain Mertens, il s'exprime avec ses mots à lui, des fois même il est drôle dans sa façon de dire les choses. Comment vous faites pour ne pas être envahi par une sorte d'émotion? Est-ce qu'il y a... Vous fermez le cerveau à un moment donné, vous...
C'est comme ça. Moi, je fais aucune théorie là-dessus, quoi. C'est la réalité brute. Je suis là pour capter la réalité brute, qu'elle soit triste, moche, joyeuse ou pas, qu'on rigole ou qu'on pleure, et puis c'est tout, quoi. Moi, je philosophe pas là-dessus. La réalité, elle est là, elle existe, elle est là. Je suis là avec ma caméra pour la retranscrire, quoi. Alors, je peux ressentir des choses, soit m'éloigner, soit me rapprocher, suivant mon sentiment à moi, quoi. Mais d'un autre côté, la réalité dépasse tout. C'est la force de ce qu'on fait par rapport à la fiction écrite. C'est que cette réalité que l'on vit à ce moment-là est plus forte que n'importe quoi. Parce qu'elle est réelle. C'est pas un comédien qui joue, ça. Parce qu'on pourrait refaire pour les frites avec des comédiens. On reprend tout le texte, on le fait jouer par des comédiens qui vont répéter pendant 3 mois leur texte autour d'une table ici pour être bien au moment même. Ce sera autre chose, c'est un autre film, quoi. Et à mon avis, moins riche. Avec le même dialogue, il sera forcément moins riche parce qu'il y a une espèce d'émotion viscérale comme ça, qui sort brute comme ça, qui à mon avis dépasse tout. Et à mon avis, c'est la richesse de ce qu'on fait, nous, par rapport à une fiction, quoi. Alors que ce film est quand même une fiction quelque part. Tout est du documentaire, mais c'est quand même un film de fiction quelque part. C'est qu'on raconte une histoire d'un meurtre avec un coupable qui est peut-être pas coupable, mais peut-être bien coupable, mais pas coupable ou pas coupable. Et avec des flics qui se démerdent. Il faut bien dire qu'à l'époque, quand on a tourné ça en 2002, maintenant on voit des flics partout, sur toute l'échelle. À ce moment-là, il n'y avait rien. il n'y avait aucune émission qui allait aussi près chez les flics. Ça ne se voyait pas. Maintenant, depuis lors, on en voit sur toutes les chaînes tout le temps. 24h/24, on en voit. Mais à ce moment-là, on était pratiquement les premiers à être dans une enquête réel policier avec le cadavre à nos pieds et tous les gens qui s'arrachent les cheveux pour trouver qui a vraiment tué cette pauvre dame, quoi. Et donc voilà, mais, et je trouve ça, c'est plus riche que n'importe quelle fiction.
Quand on filme des choses comme celle-là, au début, il y a côté un peu bien-pensance, culpabilité. Moi, je me rappelle, en préparant ce film-là, je suis dans le bureau d'une autre juge et il y a un grand monsieur très charmant au demeurant qui est accusé par sa société de détourner du matériel. Et il est sénégalais, il explique en pleurant que c'est incroyable, il est victime de racisme à son travail, que jamais, jamais, jamais. Et moi, je suis derrière le petit bureau parce que je repère les mains dans les poches et j'assiste vraiment à une mise à mort sociale d'un type qui n'a rien fait, quoi. Il pleure et tout ça. Et je suis très en colère intérieurement contre la juge qui parle quand même bizarrement à cette personne. Et alors là, à un moment donné, elle dit, ben voilà, je vous écoute, on vous accuse de ceci, vous auriez volé cette télévision-là, cette caisse-ci, ça. Il pleure, il explique que non, jamais, au grand jamais. Et elle lui dit, mais c'est pas grave, je vous mets en prison. Moi, je suis vraiment terrifié par ça, et je vais vraiment lui en parler et m'énerver. Et au moment où le monsieur part, elle le rappelle, et elle dit, regardez ça. Et en fait, c'était des photos où on voyait le type qui prenait les TV, les caisses, les trucs et les machins. Et donc moi, je pense qu'il faut... Il faut faire attention parfois à nos sentiments, à se dire « Ah, je ne peux pas faire... » On a fait un film sur un néo-nazi, ça fait le tollé à notre chaîne. Je pense qu'il faut... C'est la vieille génération. Moi, je suis un peu plus jeune que Jean et peut-être dans une génération un peu plus molle, mais il faut montrer tout, en fait. Il ne faut pas avoir de tabou et pas de sacré, quoi. Il faut aller au fond des choses et parfois se rapprocher des bourreaux. Plutôt que de se dire, ah non, moi, en tant que réalisateur, je ne parle pas de ceci, je ne parle pas de cela. Je pense qu'il faut parler de tout, en fait. Et parfois avec humour.
Vous retrouverez l'intégralité de cette interview sur le www.radiopfm.com.
Vous écoutez toujours le journal du festival sur Radio PFM 99.9. On termine cette émission avec l'agenda du jour du festival. Pas moins de 19 films vous sont proposés aujourd'hui, mardi 9 novembre, au Arras Film Festival. Alors on peut citer Loutzou, un film qui nous emmène à Malte, qui nous montre le quotidien et les difficultés de la pêche artisanale. La séance est à 14h. Mi Iubita, mon amour. Une histoire d'amour entre la France et la Roumanie, signée Noémie Merlan, séance également à 14h. Un petit tour du côté de l'Ukraine avec le film The Forgotten, réalisé par Daria Onichenko. En présence de l'équipe du film, ça sera au Megarama à 16h. Côté avant-première, deux films qui ont reçu des super critiques, L'événement d'Audrey Diwan, qui nous replonge dans une France pas si lointaine où l'avortement était encore interdit. Séance à 19h, ça se passe au Megarama et ça sera en présence de la réalisatrice Audrey Diwan. Le dernier film en date du réalisateur iranien Asghar Farhadi, ça s'appelle Un héros, c'est à voir ce soir au Casino, c'est à 19h. Et puis je termine avec une séance très attendue, l'avant-première mondiale carrément, d'un film tourné dans la région, ça s'appelle La Brigade, signé Louis-Julien Petit. C'est l'histoire de Cathy qui se retrouve cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Il y aura une rencontre avec l'équipe du film, le réalisateur, mais aussi les acteurs et actrices, Audrey Lamy, François Cluzet, ça se passe au Casino ce soir à 21h15. Prochain épisode de ce journal du festival, c'est demain sur PFM 99.9 et sur radiopfm.com. A man we passed just tried to stare me down, and when I looked at you, you looked at the ground. I don't know who he is,
but I think that you do. Dadgum it, who is he and what is a he to you? I have something in my heart and in your eyes. Tells me he's not someone just passing by. And when you cleared your throat, was that your cue? Dadgummit, who is he and what is a he to you? Now when I add the sum of you and me, I get confused and I keep coming up with three. That's